Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La contestation populaire est toujours très présente en Algérie, avec plusieurs manifestations cette semaine, hier vendredi, mais aussi lundi, à l'occasion du deuxième anniversaire du Hirak, le 22 février. Nous faisons le point sur ce mouvement, sur la gestion de la crise sanitaire et aussi sur les annonces du président Tebboune à son retour d'Allemagne, avec la politologue algérienne Louisa Driss Aït Amadouche. À suivre la revue de presse, le regard croisé de Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire sur l'actualité en Israël et dans le monde arabe. Bonjour Louisa Driss Aït Amadouche.
Bonjour Éric.
Nous sommes en ligne avec vous depuis Alger, où vous êtes professeur à la faculté des sciences politiques et des relations internationales de l'université Alger 3. Merci de nous accorder cet entretien. Le soulèvement populaire, le Hirak, vient de passer le cap des 2 ans. C'était lundi, la date anniversaire. Quel bilan peut-on tirer de ces 2 années qui ont été contrastées en raison de la crise sanitaire?
Oui, elles ont été contrastées et le bilan peut aussi être considéré comme contrasté, même si, à mon sens, les aspects positifs sont supérieurs aux aspects négatifs. Donc, on va commencer par le moins bon. Je pense que l'une des choses que l'on peut mettre dans les aspects qui n'ont pas été réalisés ou dans les manquements ou dans les insuffisances du Hirak, je dirais le manque d'organisation ou de structuration qui peine encore à s'imposer. Je dirais le fait que les grands moments ou les grands défis que s'est fixé le pouvoir politique en place, eh bien, le Hirak n'a pas réussi à les empêcher. Je pense notamment à l'élection présidentielle du 12 décembre et le référendum du 1er novembre. Et enfin, je dirais comme insuffisance également, la difficulté que trouve le soulèvement populaire à se reconnaître ou à s'identifier, ou en tout cas légitimer des forces politiques capables de porter ses revendications à un plus haut niveau. Quant aux aspects positifs, je dirais que le premier, et c'est vraiment l'aspect essentiel, c'est le fait que le Hirak ait pu conserver son pacifisme de bout en bout, et ce, malgré les nombreuses, très nombreuses provocations qui avaient pour but essentiellement de le faire sombrer dans la violence. Le deuxième élément, c'est sa pérennité, c'est sa résilience, parce que vous avez effectivement dit qu'il y avait des étapes contrastées. Il y a effectivement 1 an de mobilisation populaire avec des manifestations extrêmement spectaculaires, mais il y a aussi 1 an de confinement, de répression. Malgré cela, le soulèvement a continué d'exister en s'adaptant aux nouvelles circonstances.
De votre point de vue, comment le mouvement populaire et la crise sanitaire ont-ils été gérés par les autorités ces dernières semaines et ces derniers mois?
Écoutez, il n'est un secret pour personne que cette période a connu une forte hausse en termes de répression, en termes d'arrestation, en termes de médias censurés. Les organisations algériennes de défense des droits de l'homme ont parlé juste avant la libération décidée par le chef de l'État d'environ 90 détenus d'opinion, environ 1 millier de personnes convoquées et interrogés. Vous avez une dizaine de médias, notamment électroniques, censurés. Les médias publics sont totalement fermés à la moindre critique, à la moindre opinion contradictoire. Donc cette année a été, sur le plan des libertés individuelles et collectives, assez dure. Le confinement, bien entendu, est une restriction par définition des libertés individuelles, mais la stratégie choisie par le pouvoir public durant cette période a plutôt été dans le sens de profiter de cette fermeture physique de l'Algérie pour imposer, ou en tout cas pour tenter d'employer plutôt le bâton que la carotte durant cette période.
Louisa Driss Aït Amadouche, dans un entretien avec le quotidien El Watan en octobre dernier, vous disiez que la fin du statu quo politique, c'est moins la chute du régime que l'émergence d'une alternative. C'est ce à quoi devrait tendre le Hirak, disiez-vous. Voyez-vous poindre cette alternative aujourd'hui?
Eh bien, en fait, la pandémie a aussi été une sorte d'opportunité pour le soulèvement populaire. Parce que l'arrêt subi des manifestations a mis les militants et les Hirakis, je dirais en général, devant une réalité assez froide. Cette réalité consistait à voir que malgré la mobilisation extrêmement forte, l'élection présidentielle avait eu lieu, et que malgré toutes ces manifestations pacifiques, populaires, nationales pendant un an, les dirigeants politiques n'avaient pas cédé d'un iota sur le statu quo. Et donc, ce premier bilan a poussé notamment un grand nombre de collectifs, d'associations et même de personnalités assez importantes dans le Hirak à réfléchir autrement et à penser à la nécessité, non pas de remplacer, mais de conforter, de consolider, de parachever la pression qu'exercent les manifestations populaires par des projets, des conceptions politiques, des réflexions. Et c'est effectivement ce qui s'est passé pendant cette année où on a observé la multiplication par dizaines de débats organisés en webinaire ou en Zoom sur les réseaux sociaux, tant par les Algériens d'Algérie que par la diaspora. Et c'est un grand nombre d'idées qui a été brassé durant cette période. On a pu discuter de la transition démocratique, de la justice transitionnelle, d'élections législatives, de constituantes, de préalables à la transition démocratique. Et toutes ces idées qui ont été débattues toujours dans le virtuel, hein, parce que toutes les rencontres sont toujours interdites par les autorités, ont donc permis de maturer l'idée que la crise de représentation et la crise de confiance étaient devenues un véritable obstacle à l'émergence d'une alternative. Et cette alternative apparaît aujourd'hui d'autant plus nécessaire que l'agenda ou la feuille de route que poursuit le pouvoir politique aujourd'hui et depuis décembre peine de façon visible à s'imposer et à donner ses fruits. Les résultats du référendum en est une illustration absolument évidente. La gestion de la maladie du président en est une autre. Cette controverse ou le peu d'engouement vis-à-vis des futures élections législatives et locales en est une troisième illustration. Donc nous sommes aujourd'hui face à des difficultés internes que connaît le pouvoir politique d'une part et d'autre part au fait que de plus en plus la notion de devoir proposer une alternative au pouvoir politique et un complément aux manifestations populaires s'impose de façon claire.
Vous évoquiez, Louise Drissaït Amadouche, il y a quelques instants, la maladie du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui est resté plus de 3 mois en Allemagne. À son retour, il a annoncé la libération de plusieurs dizaines de manifestants, la tenue d'élections législatives anticipées et il a procédé aussi à un remaniement ministériel. Comment interpréter ces annonces ?
En fait, je pense que ce sont des annonces qui, aux yeux de ceux qui les prennent, donc aux yeux des décideurs politiques algériens, tentent de contribuer à apaiser la situation, à créer un climat un peu moins tendu, à considérer que les choses sont revenues à l'ordre naturel et que l'Algérie peut se diriger tranquillement vers le parachèvement du processus électoral, commencé par les élections présidentielles et qui serait parachevé par les élections législatives et locales. Nous sommes donc dans une conception normalisante de la situation politique actuelle. Maintenant, quel impact ce type de mesure a ? Évidemment, la libération d'un certain nombre de détenus d'opinion a été accueillie de façon la plus favorable et la plus positive possible parce que c'est effectivement un soulagement pour les familles et pour les militants. Mais il reste d'autres détenus encore, détenus d'opinion encore aujourd'hui en prison. Certains des détenus qui ont été libérés, ils n'ont pas été graciés, mais ils sont sous liberté provisoire, donc il y a cette menace de pouvoir être arrêtés de nouveau, et il y a surtout des arrestations qui se sont poursuivies ces derniers jours. Donc ça c'est pour le premier point. Concernant le parachèvement du processus électoral, il y a un gros souci à l'égard de cette question, car il semble difficile d'organiser des élections entre guillemets normales dans un contexte qui ne l'est pas. En fait, ce que les gouvernants tentent de réaliser aujourd'hui, c'est de reproduire les schémas et les mécanismes qui étaient utilisés avec un certain succès, il faut bien le dire, avant février 2019, c'est-à-dire mobiliser un certain nombre de partis politiques qui accepteront de jouer un rôle dans ces élections, de les légitimer et donc de contribuer à produire un Parlement apparemment pluraliste où il y aurait un courant islamiste participationniste, un courant dit nationaliste et un courant dit démocratique. Et en fait, C'est une volonté de reproduire le schéma qu'utilisait le président Bouteflika déchu à l'époque. Aujourd'hui, ce schéma me semble beaucoup plus difficile à réaliser parce que les acteurs d'aujourd'hui ont une assise sociale beaucoup moins importante que ne l'avait le FLN à l'époque, évidemment. Ce sont des acteurs qui ont souvent été impliqués dans la gestion politique de la période précédente, donc il est difficile de faire, entre guillemets, du neuf avec du vieux. Et puis, il y a bien évidemment cette défiance, le soulèvement populaire qui est encore présent et qui s'oppose en fait à l'idée de participer à une élection quelle qu'elle soit, si les conditions de transparence ne sont pas réunies. Les conditions de transparence, qu'est-ce que c'est? C'est la libération des espaces publics, permettre les libertés individuelles et collectives, civiques et politiques, donc permettre aux partis politiques d'activer, aux associations, permettre les manifestations, les réunions, etc., que les médias soient ouverts aux opinions contradictoires et que ces élections soient garanties par une instance qui soit réellement indépendante, dans laquelle l'administration, que l'on sait cooptée, que l'on sait partiale, n'ait pas un rôle extrêmement important, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas.
Merci Louisa Drissaït Amadouche.
Merci Eric.
Politologue, enseignante à l'Université de sciences politiques et de relations internationales à Alger, où nous vous appelions pendant cette interview. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
L'actualité de la semaine dans le monde arabe et en Israël, nous retrouvons Alexandre Bouchanté au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Cette semaine, Michel, vous avez retenu un article en particulier. Un membre de la famille royale jordanienne lance un appel à la paix au Proche-Orient.
Et c'est sans conteste l'article à retenir dans la presse israélienne de cette fin de semaine. Il est signé dans Yediot Acharonot par le prince jordanien Hassan Ben Talal, le frère du défunt roi Hussein et l'oncle de l'actuel monarque Abdallah de Jordanie. « Ensemble, proclame le prince, nous pouvons obtenir la paix dans la région, et cela d'ici à la fin de la décennie. » Hassan est persuadé que le moment est particulièrement propice pour lancer cet appel. Deux conditions pour atteindre cet objectif, la création d'un État palestinien et aussi le partage de Jérusalem. Il espère que la Turquie et l'Iran ne manqueront pas cette occasion. Il s'adresse directement au peuple israélien. Le changement dépend de nous. La responsabilité repose sur nos épaules, affirme encore le prince Hassan, qui propose qu'Israël et les pays arabes qui le souhaitent se lancent sans plus attendre dans ce processus. Les autres suivront, déclare-t-il.
Alexandre, vos journaux, eux, rapportent l'intense activité politique autour de la réconciliation de pays arabes avec le Qatar.
Oui, et les rencontres bilatérales se multiplient entre des responsables du Qatar et d'Égypte, des Émirats et d'Arabie Saoudite. Alors la rencontre égypto-qatarienne a eu lieu en terrain neutre, au Koweït, précisent les journaux. Sur la table, l'arrêt de la guerre des ondes par chaînes d'information et journaux interposés. L'arrêt, ou au moins la réduction de l'aide qatarienne à la confrérie égyptienne des frères musulmans et la levée du gel des avoirs qatariens, mais surtout des projets d'investissement de Doha en Égypte. Avec les Émirats, c'est aussi l'arrêt de la guerre des ondes et la reprise des relations économiques et commerciales. On cesse d'accuser le Qatar de soutenir le terrorisme et en contrepartie, on cesse d'accuser les Émirats de trahison à la cause arabe par l'établissement de relations avec Israël. Mais le plus parlant, ce sont les souhaits de prompt rétablissement de l'émir du Qatar au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, opéré de l'appendicite. Il y a quelques semaines encore, bin Salman était qualifié d'assassin par les médias de Doha.
Une activité politique aussi du Soudan sur plusieurs fronts à la fois, Alexandre, selon la presse arabe.
Oui, un Soudan qui a été dopé par la normalisation de ses relations avec les États-Unis, estime un éditorialiste. Mieux qu'une normalisation, Khartoum devient un allié de Washington, comme l'illustre le mouillage d'un bâtiment de guerre américain à Port-Soudan, écrit un analyste. Il en résulte une offensive soudanaise sur le terrain militaire contre les forces éthiopiennes qui, selon Khartoum, ont colonisé une partie de son territoire et une mise en garde à l'Érythrée voisine contre la tentation de s'allier à l'Éthiopie. Mais le plus intéressant est la réouverture du dossier du triangle de Halayeb, un territoire sur la mer Rouge situé entre le Soudan et l'Égypte et que le Caire a pris manu militari il y a une vingtaine d'années et qui semblait être devenu un fait accompli.
Michel Paul, les élections du 23 mars en Israël, les choses se précisent.
Moins d'un mois pour les législatives israéliennes, comme toujours en fin de semaine, les sondages. Eric, on peut les résumer en deux phrases. C'est toujours le Likoud de Benjamin Netanyahou qui mène au point, et de loin même. Mais si l'on compare les blocs politiques à ceux des opposants au Premier ministre, les anti-Bibi ont une majorité absolue. En d'autres termes, on fonce tout droit vers une nouvelle impasse politique, à retenir aussi le rôle prépondérant que devrait obtenir le parti de la droite nationaliste Yémina, avec 11 sièges prévus seulement, il pourrait faire et défaire la prochaine coalition. Les commentateurs voient là une des limites du système électoral israélien, la proportionnelle directe par liste qui accorde une force surmultipliée à de petites formations. Et la question qui tracasse les commentateurs politiques en cette fin de semaine est simple. Naftali Bennett, le chef de file de ce parti, franchira-t-il le pas pour rejoindre les opposants à Netanyahou?
Le virus, des chiffres mitigés, Michel, et de nouvelles controverses.
De nouvelles restrictions ce week-end en raison de la fête de Pourim, le carnaval juif, un couvre-feu nocturne a été mis en place. On note une légère relance de la multiplication du virus et simultanément, les experts sont unanimes, les effets du vaccin se font sentir, surtout auprès de la population la plus fragile. Les consignes ne sont plus respectées, c'est le chaos, titre Maariv. La presse relate ce que l'on appelle déjà la diplomatie des vaccins. L'intention maintenant gelée de Netanyahou de livrer des doses de vaccins à des pays amis, notamment ceux qui ont ou bien qui veulent transférer leur ambassade à Jérusalem. Le Jérusalem Post pose la question, Israël est-il légalement tenu de fournir des vaccins aux Palestiniens? Et il est aussi question du test qui débute ce dimanche, des bracelets électroniques pour les Israéliens de retour de l'étranger pour les obliger à observer une quarantaine chez eux. Dans Israël Hayom, un angle inattendu, une augmentation très forte des demandes d'immigration en Israël, une alia pour pouvoir recevoir le vaccin en Israël.
Et sur ce front de la pandémie, Alexandre, un film comique égyptien, une histoire d'homme qui parvient à vaincre le coronavirus.
Oui, grâce à Fetregel, le nom arabe du film, le cinéma égyptien malade du coronavirus qui vidait les salles de leurs spectateurs semble en voie de guérison. Pour la première fois depuis un an, un film couvre ses frais et fait des bénéfices respectables, indiquent les journaux. Waf et Tregala, c'est l'histoire d'une bande de copains d'enfance devenus vieux et qui décident de partir en vacances ensemble et de faire les 400 coups comme au bon vieux temps.
Pour conclure, Michel Paul, votre image de la semaine.
Eh bien, ce sont les photos de la gigantesque marée noire qui a frappé les plages israéliennes sur 170 km. Du goudron, des tortues, des crabes et des étoiles de mer en proie au mazout déversé par un navire au large d'Israël et partout la photo de cette jeune baleine de 20 mètres de long qui est venue mourir sur la plage de Nitzanim. Elle avait ingurgité d'importantes quantités de goudron.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, un magazine de RFI réalisé par Mathias Golshani. Retrouvez-nous en podcast avec notre application Pure Radio ou sur le site de la radio www.rfi.fr. Demain, nous évoquerons l'histoire de l'industrie pétrolière dans le monde arabe avec l'historien Philippe Petria et son livre « Au pays de l'or noir » publié chez Gallimard. À demain donc, prenez soin de vous.
Ce dimanche, sur RFI,